Frédéric Ancel est en ligne avec nous à présent. Bonsoir Frédéric.
Bonsoir Bernard.
Frédéric, vous êtes docteur en géopolitique, vous enseignez à l'Institut français de géopolitique de l'Université Paris 8, vous êtes maître de conférence à Sciences Po et surtout vous êtes l'auteur de nombreux ouvrages sur les questions de géostratégie. On entend d'ailleurs que vous êtes à l'université.
Absolument.
C'est comme ça, le professeur. Vous publiez un ouvrage aux éditions Odile Jacob, qui est l'un de ces ouvrages où franchement on se dit l'auteur il prend des risques là. Parce que écrire aujourd'hui un livre qui s'appelle « La guerre mondiale n'aura pas lieu », je ne vous souhaite pas Frédéric, d'ailleurs je ne souhaite à personne évidemment, j'aime mieux votre titre qu'un autre, ça dérape. Et donc bon ça sera évidemment, on va démarrer là-dessus, la guerre mondiale n'aura pas lieu alors que tout le monde en parle. Vous expliquez dans votre livre par exemple que c'est certain que ni l'armée russe ni la population russe n'a envie de se battre en Ukraine, alors les voir se coller à une guerre mondiale, peut-être pas, mais est-ce que Trump, pourquoi est-ce que vous excluez l'idée que Trump puisse faire la gaffe qu'il fallait pas faire?
Alors, je l'exclus d'autant plus que Trump a deux nords de sa boussole. Il n'a pas trois, je crois. Il y a deux lignes directrices dans sa vie, politique en tout cas. La première, c'est le mercantilisme absolu. Je n'ai pas d'amis, je n'ai pas d'adversaires, je n'ai pas d'ennemis, je n'ai pas d'alliés, ni les Européens, ni les démocrates, ni les non-démocrates. Je dépense un dollar, je veux deux dollars. Je n'exagère pas, hein, et je ne crois pas que vous puissiez trouver une espèce de couche inférieure philosophique à ça, et on le voit bien d'ailleurs, mais partout où il intervient, ne serait-ce que d'un point de vue sémantique et rhétorique. C'est pas propice à l'avènement du spectre de la guerre mondiale. Hein. Deuxième nord de sa boussole, il n'envoie pas, il n'a pas envoyé et il n'enverra pas de soldats hors des frontières américaines. Il l'a déjà pas fait entre 8 ans et 4 ans, donc lors de son premier magistère. Il ne le fera pas d'abord, parce que je reviens à mon premier point, ça lui coûte trop cher, ça ne l'intéresse pas, il a été réformé, il s'en fout. Il ne veut pas faire la guerre, il considère que ça coûte trop cher. Quand vous croisez ces deux variables de prise de décision manifestement les plus importantes chez Trump, je suis très heureux de vous dire, très pragmatiquement et très géopolitiquement, que ça éloigne justement le spectre d'une éventuelle guerre mondiale.
Oui, mais alors le problème, c'est que moi je suis désolé à mon tour de vous dire qu'en ce moment même, Donald Trump est engagé dans une campagne à l'étranger, et pas une petite. C'est-à-dire que les frappes sur le Yémen continuent, elles ont continué cette nuit encore. Ils ont d'ailleurs, au passage, ils ont bombardé des centrales hydrauliques, c'est-à-dire les moyens de donner de l'eau à la population. Ça sera une deuxième question. On remarque que les Américains, eux, ils peuvent couper l'eau à la population, ça pose pas de problème. Donc les Israéliens, alors ça ferait ce qu'on connaît aujourd'hui. Mais les Américains sont engagés dans le Golfe. J'ai moi écrit ce matin qu'un nouveau porte-avions est en train d'arriver au large de l'Iran, que des patriotes ont été déployés. Ils sont en pleine campagne en ce moment, les Américains.
Mais cher Bernard, lorsque Trump numéro 1 arrive au pouvoir, au bout de quelques mois, il propulse 59 missiles Tomahawk sur une base syrienne pour punir Assad d'avoir propulsé pour la énième fois du gaz de combat contre sa population. Où avez-vous vu un soldat américain au sol? Où voyez-vous de soldats américains descendant, commençant à débarquer au Yémen? Donc vous avez totalement raison. Aujourd'hui, il y a une pression très forte, non seulement sur les Houthis. Et pourquoi d'ailleurs, tiens? Parce qu'ils coûtent cher, ces gens-là, au commerce mondial. Voilà. Et ensuite, une pression très forte sur l'Iran. Pourquoi, cher Bernard? Parce que l'Iran menace au moins autant l'équilibre et la stabilité et la solvabilité de l'Arabie Saoudite. Or, l'Arabie Saoudite, beaucoup plus qu'Israël, mais bien sûr, beaucoup plus qu'Israël. Je rappelle que, à vos auditeurs, que le Trump, avant qu'il ne devint homme politique et donc président, il avait beaucoup investi dans le Golfe et notamment en Arabie Saoudite et jamais un cent en Israël. Donc, Israël l'intéresse vaguement pour d'autres raisons, notamment pour des questions intérieures. Mais en réalité, son prisme absolu, c'est l'Arabie Saoudite. Donc, il ne veut pas qu'elle soit déstabilisée. Or, le nucléaire iranien déstabiliserait radicalement l'Arabie Saoudite si l'Iran l'obtenait, ce qu'elle n'obtiendra pas. Vous m'avez fait l'amitié de me faire confiance depuis de très longues années, je vous le dis depuis très longues années, je peux vous garantir que l'Iran n'aura pas la bombe. Donc en réalité, il envoie des bateaux et il montre ses muscles, il n'y aura pas un soldat américain ni au Groenland, ni à Gaza, ni en Arabie Saoudite, ni au Yémen.
C'est peut-être au Yémen que c'est le plus embêtant, Frédéric, parce que c'est vraiment le régime, d'après ce que je lis d'ailleurs, c'est des barges. Carrément, c'est pas toujours bon de parler comme ça parce que ça n'avance à rien. Et puis bon, c'est très rare d'être à un haut niveau en étant vraiment complètement givré. Mais les Houthis, il paraît qu'ils sont vraiment dans un trip messianique. Ils croient qu'ils vont retourner à Jérusalem, etc. C'est que, franchement, j'ai l'impression, mais moi je suis pas expert, que vraiment la seule solution aujourd'hui, c'est une intervention terrestre.
Non mais regardez, une intervention terrestre américaine au Yémen, ça signifie des centaines ou des milliers de soldats américains qui reviennent dans des boîtes en bois sur des aérodromes militaires américains. Pour quel résultat ? Regardez ce qui s'est passé en Irak, regardez ce qui s'est passé en Afghanistan. Trump n'en veut pas. Et non seulement il n'en veut pas sur une base, j'allais dire, autobiographique, je l'ai dit tout à l'heure, ça ne l'intéresse pas, il ne connaît rien à l'armée, il n'a pas fait l'armée, etc. Mais il sait très bien, et là ce n'est pas idiot du tout de sa part, il sait très bien que l'opinion publique américaine est devenue très réticente, sinon carrément rétive, à l'envoi de soldats hors des frontières. Donc il ne le fera pas. Maintenant, s'il ne le fait pas, vous croyez réellement que les Houthis, qui sont effectivement tout à fait fanatiques et très très peu pragmatiques, vous apprécierez mon sens de la litote, vous croyez que sans soldats américains, ils l'emporteront davantage. Mais non, en réalité, il s'agit de limiter leur capacité à projeter de la violence coûteuse, en quelque sorte, et notamment coûteuse sur les navires de commerce. Maintenant, cerise sur le gâteau. Les Américains exercent des pressions sur les Houthis, mais pour défendre qui ? Israël, non, parce que franchement, Israël, ce n'est pas le pays le plus menacé par les Houthis. En revanche, les États-Unis ne veulent pas, je reviens à mon Arabie Saoudite, d'instabilité en Arabie Saoudite. Or, les Houthis frappent systématiquement le sol saoudien depuis maintenant une bonne dizaine d'années, et les États-Unis ne veulent pas l'effondrement de l'Égypte. Or, qu'est-ce qui se passe lorsque les Houthis propulsent des obus sur des bateaux et réorientent la navigation maritime tout autour finalement de l'Afrique, en faisant le circum de l'Afrique comme les Portugais en 1500, bah évidemment, c'est l'Égypte avec la rente du canal de Suez qui risque de s'effondrer. Voilà la réalité. Mais vous n'avez pas besoin d'envoyer des soldats au sol pour que la situation s'améliore considérablement. Hein.
D'ailleurs, ça ne vous a pas frappé de voir... on va formuler différemment. Est-ce que vous trouvez que la situation d'Israël a radicalement changé ? Vous m'aviez dit que oui, il y a de cela 15 jours. Quand vous voyez que finalement, on a toujours... Que dès qu'un Palestinien a une roquette, il la tire sur Sderot, comme hier, djihad islamique, on a toujours des images d'Israéliens couchés par terre, en attendant que l'alerte s'arrête. Finalement, depuis... un an et demi, on a quand même des gens du Nord qui ne veulent pas rentrer, je ne veux pas vous faire le... Et ça ne vous choque pas quand même ? Vous n'avez pas l'impression que nous, on n'arrête pas d'analyser, mais au final, on a quand même l'impression que ça ne bouge pas tant que... Enfin, je ne sais pas. Mais je ne sais pas d'ailleurs. Alors dites-moi, qu'est-ce que vous en pensez ?
Moralement, c'est choquant, y compris du point de vue international, puisque je rappelle, mais vous le savez parfaitement, que la résolution 242 du Conseil de sécurité, hein, qui date évidemment de novembre 1967, impose au Proche-Orient, j'allais dire, implique en tout cas, le droit à l'existence et à la sécurité pour l'État d'Israël. Donc de ce point de vue-là, évidemment, c'est choquant, et n'importe quelle roquette missile tombant sur le territoire souverain de l'État d'Israël est parfaitement inadmissible, mais même en droit international. Maintenant, prenons un tout petit peu de hauteur, si vous voulez bien. Au jour du 6 octobre 2023, Israël fait face à un Hamas doté de plusieurs milliers de combattants, des vrais combattants, hein, des vrais combattants, pas des gens qui assurent la soupe populaire, de véritables combattants. Au Liban, un Hezbollah parfaitement implacable, pardon, qui se situe à la frontière, qui creuse des tunnels et qui pourrait parfaitement perpétrer un 7 octobre à la manière dont le Hamas va le faire. Tout cela soutenu par l'Iran qui crânement va bientôt propulser des missiles sur Israël, et un Biden qui est très favorable à Israël mais qui néanmoins ne laissera pas le gouvernement israélien faire absolument ce qu'il entend faire. Un an et demi plus tard, quand on fait de la géopolitique sérieusement, il est inimaginable de penser que la situation géostratégique d'Israël est la même. Elle s'est considérablement améliorée. Parce que, j'ajoute la cerise, une deuxième cerise sur le gâteau, Assad est tombé. Or, Hafez arrive au pouvoir en 70. Il faut quand même comprendre ce que ça signifie sur l'ensemble du Moyen-Orient. Et regardez aujourd'hui, la seule véritable puissance encore réellement dotée capable de projeter, je reprends mon expression géostratégique, de la force en quantité et en qualité sur Israël, c'est l'Iran, et certainement plus pour longtemps si le guide suprême continue à faire n'importe quoi. Bah, moi, c'est ce que j'appelle une modification assez substantielle des rapports de force.
Frédéric Ancel, avec votre permission, on se retrouve dans une minute. On va essayer de rentrer maintenant vraiment dans le fond de votre livre. À tout de suite.